tous, Claire Morin-Gibourg avec vous. Bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui. Au sommaire ce soir, au Mali, l'attaque d'une école de gendarmerie à Bamako a été revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. En République démocratique du Congo, 10 civils ont été tués lors d'une attaque de la milice Codeco dans le territoire de Djougou en Ituri. En Centrafrique, la Cour pénale spéciale annonce que les victimes du massacre de Paoua vont être indemnisées 5 ans après. Ici aux États-Unis, les deux candidats, Kamala Harris et Donald Trump, repartent en campagne. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Très tôt ce matin, plusieurs points stratégiques à Bamako, dont l'école de la gendarmerie, ont été visés par une attaque terroriste. Si pour l'heure, on n'a pas de bilan officiel, on a pu voir sur des images de personnes arrêtées par les forces de défense sur les réseaux sociaux et des communiqués de l'armée affirmant que la situation est sous contrôle. Plus de détails avec notre correspondant Mohamed Danioko.
Très tôt ce matin, de fortes détonations suivies de tirs nourris ont réveillé les populations de Faladié, Sogoninko, Atetebougou et environnants. Assimilés dans un premier temps à des exercices de tir au sein de l'école de gendarmerie, l'intensité, la fréquence et les images de fumée noire qui s'échappaient du camp, relayées sur les réseaux sociaux, ont vite confirmé qu'il s'agissait d'une attaque. Une attaque terroriste confirmée par l'état-major dans un communiqué. Le ministère de la Sécurité a invité un peu plus tard les populations à vaquer à leurs occupations et à rester vigilants. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans a revendiqué l'attaque. L'état-major, dans son communiqué, a promis de donner plus de détails sur cette attaque, ses auteurs et les objectifs visés. À noter que cette attaque survient à quelques jours de la célébration de la fête nationale d'indépendance le 22 septembre. Mohamed Danioko pour VOA Afrique, Bamako.
Plusieurs milliers de Ghanéens ont manifesté ce mardi à l'appel de l'opposition pour réclamer un audit des listes électorales. Les manifestants ont défilé dans toutes les régions du pays. Ils ont répondu à l'appel du Congrès national démocratique, le principal parti d'opposition, qui accuse la commission électorale d'avoir falsifié les listes électorales pour favoriser le nouveau parti patriotique au pouvoir et son candidat à la présidentielle, le vice-président Mahamudu Bawumia. Dans le nord du Nigeria, au moins 25 enfants qui se rendaient au Maouloud, une fête musulmane, ont été tués et des dizaines d'autres blessés dans un accident de la route. Dimanche, dans l'état de Kaduna, un bus transportant de jeunes musulmans soufis a percuté un camion, a déclaré Kabirou Nadabo, chef de l'agence de sécurité routière à Kaduna. Le bus était surchargé avec 63 enfants, a expliqué M. Nadabo. 15 d'entre eux sont morts sur le coup et 10 le lendemain à l'hôpital des suites de leurs blessures. Un des organisateurs du déplacement, Diko Dairou, a évoqué un bilan plus lourd avec 40 enfants tués, 31 grièvement blessés sur 71 passagers au total. Dans l'est de la République démocratique du Congo, 10 civils ont été tués lors d'une attaque contre un village de la province de l'Ituri. Le chef de l'administration locale et un dirigeant de la société civile ont imputé l'attaque à la milice tribale Codeco. Nous faisons le point avec Jean-Roger Bion.
D'après le chef de l'administration Jean-Marie Matezo et le leader de la société civile Jules Touba, des combattants du groupe armé Codeco sont entrés vers minuit dans un village du territoire de Djougou où la majorité des habitants appartiennent à la communauté Emma et ont tué 10 personnes dans 2 foyers. Les milices Codeco ont décapité certaines des victimes, a ajouté M. Matezo. Il a également déclaré que les meurtres ont eu lieu non loin d'une position militaire congolaise. Quant à M. Touba, il a fait savoir que des corps gisaient toujours sur le sol mardi matin. La Codeco est une milice qui dit défendre les intérêts de la communauté Lindou, qui se dispute les terres et les ressources avec la communauté Emma en Ituri, dans l'est du Congo.
En Centrafrique, les victimes du massacre de Paoua indemnisées 5 ans après les fêtes. Elles ont reçu des réparations après un jugement de la Cour pénale spéciale. Les massacres avaient coûté la vie à 46 civils en 2019. Alexandrine Holognon.
Pour la première fois dans l'histoire de la République centrafricaine, une mesure de réparation ordonnée par une juridiction a été mise en œuvre au bénéfice direct des victimes parties civiles, fait valoir dans un communiqué la CPS, juridiction chargée des crimes de guerre et contre l'humanité dans le pays. Le texte annonce l'indemnisation de 9 victimes directes des crimes, dont 5 victimes de violences sexuelles et 32 familles affectées par l'affaire dite de Paoua. L'ensemble des réparations financières accordées individuelles et collectives, remises fin août, s'élève à 18 855 000 francs CFA. Le 21 mai 2019, des éléments du groupe armé 3R avaient lancé une série d'attaques contre la ville de Paoua, située dans le nord du pays. 46 civils avaient été tués dans ces attaques, selon l'ONG Human Rights Watch. Les 3 accusés dans cette affaire ont été déclarés coupables de crimes de guerre et crimes contre l'humanité et condamnés à 20 ans et 30 ans de réclusion par la Cour pénale spéciale en juillet 2023.
Au moins une 50aine de chefs d'État et de gouvernement vont participer au 19e sommet de la francophonie début octobre, organisé en France pour la première fois depuis 33 ans. C'est ce qu'ont annoncé hier les organisateurs. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger ainsi que la Guinée n'ont pas été invités. Le sommet se tiendra à Villers-Cotterêts, au nord de Paris. Le vice-président de la Sierra Leone, Mohamed Julde Jallo, a déclaré que le bilan de l'effondrement d'un immeuble de 7 étages dans la capitale s'élève à au moins 9 morts, alors que les sauveteurs sont toujours à la recherche de survivants. Cet immeuble s'est effondré hier à la mi-journée.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Élection présidentielle américaine, le candidat républicain Donald Trump est reparti en campagne dans le Michigan, 2 jours après la seconde tentative d'assassinat présumée l'ayant visé. Sa rivale démocrate Kamala Harris a mis le cap sur la Pennsylvanie. Nous faisons le point avec Nanit Talani.
Donald Trump doit participer à une réunion publique à Flint, la plus grande ville du Michigan, laissée exsangue par une crise de l'industrie automobile et tristement célèbre pour avoir connu un immense scandale de contamination de l'eau potable. En Pennsylvanie, Kamala Harris aura un échange public avec l'Association américaine des journalistes noirs. Le candidat républicain avait lui aussi accordé fin juillet un entretien à cette même association. Il avait à cette occasion accusé sa rivale, née d'un père jamaïcain et d'une mère indienne, d'être devenue noire pour des raisons électoralistes. Cet État du Nord-Est et le Michigan seront parmi les plus disputés du scrutin. Les votes de 19 grands électeurs de la Pennsylvanie sont les plus nombreux parmi les 7 États pivots ou swing states. Donald Trump et Kamala Harris sillonnent ces états décisifs. Pour l'heure, les sondages les donnent au coude à coude à moins de 50 jours de l'élection du 5 novembre.
Des centaines de membres du Hezbollah ont été blessés à travers le Liban par l'explosion simultanée de leur beeper qui a fait 9 morts et a été attribué à Israël par le mouvement islamiste libanais. 9 personnes ont été tuées, près de 2800 autres blessées, ont confirmé les autorités libanaises. Le Hezbollah a affirmé qu'Israël était entièrement responsable de ces explosions et assuré qu'il allait recevoir son juste châtiment à la suite de cette agression. Israël n'a pas commenté ces explosions survenues dans plusieurs places fortes du Hezbollah quelques heures après avoir annoncé qu'il étendait les objectifs de la guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza, sa frontière nord avec le Liban. Washington a appelé Téhéran à la retenue. Le secrétaire d'État Anthony Blinken est attendu demain mercredi en Égypte pour discuter d'une nouvelle proposition de compromis en vue d'un cessez-le-feu à Gaza et d'une libération des dizaines d'otages qui y sont retenus selon le département d'État. Le Qatar a affirmé que les efforts se poursuivaient pour tenter de parvenir à un cessez-le-feu. En France, le djihadiste Peter Sherif a refusé de s'exprimer au deuxième jour de son procès à Paris. Il est soupçonné d'avoir joué un rôle auprès de l'un des assaillants du journal satirique Charlie Hebdo en 2015. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Jean-Roger Bion.
Le Kenya prévoit une baisse du déficit budgétaire à 3,5% du produit intérieur brut au cours de l'exercice fiscal l'année prochaine, contre 3,3% actuellement, selon le ministère des Finances. Nairobi a opté pour une réduction des dépenses et un recours accru à l'emprunt après la suppression de plusieurs lignes d'impôts suite aux manifestations. Le Zimbabwe prévoit d'abattre 200 éléphants pour nourrir les communautés confrontées à une famine aiguë à la suite de la pire sécheresse depuis 40 ans. Le Zimbabwe abrite à lui seul plus de 84 000 éléphants sur une population de 200 000 éléphants vivant dans une zone de conservation répartie sur 5 pays d'Afrique australe, le Zimbabwe, la Zambie, le Botswana, l'Angola et la Namibie. Le Soudan du Sud et le Soudan ont progressé vers la reprise du pompage du pétrole brut du Soudan du Sud par un oléoduc reliant le pays à un port de son voisin. À son apogée avant la guerre civile, la production de pétrole brut du Soudan du Sud se situait entre 350 000 et 400 000 barils par jour.
Et maintenant la page sport, présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Le 8e championnat d'Afrique des Nations se tiendra en Tanzanie, au Kenya et en Ouganda.
Oui, l'annonce officielle a été faite par le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe. Le CHAN aura lieu du 1er au 28 février prochain. C'est la première fois que l'Afrique de l'Est accueille une compétition continentale de football pour les équipes nationales et elle servira de précurseur aux trois nations, la Tanzanie, le Kenya et l'Ouganda, qui accueilleront la Coupe d'Afrique des Nations en 2027. Les matchs de qualification pour le tournoi à 19 équipes débuteront le 25 octobre et se termineront en décembre. Le championnat d'Afrique des Nations, qui a lieu tous les deux ans, est réservé aux joueurs locaux. Le Sénégal a remporté la dernière édition du tournoi en 2023 en battant le pays hôte, l'Algérie, 5 tirs ici contre 4 au tir au but. En finale, le Maroc et la République démocratique du Congo ont chacun remporté deux fois le CHAN depuis sa création en 2009.
Début ce soir des matchs de la phase de poule de la Ligue européenne des champions.
Pour cette première journée à suivre, entre autres, l'AC Milan qui reçoit Liverpool de Mohamed Salah, la Juventus Turin accueille le PSV Eindhoven, Young Boys Berne accueille Aston Villa, le Real Madrid joue face à Stuttgart et le Bayern Munich va affronter le Dynamo Zagreb, tandis que le Sporting Portugal affronte Lille. Dans ce nouveau format de la Ligue des Champions à 36 clubs, les différentes formations de l'élite européenne vont batailler pour accrocher l'une des 8 premières places directement qualificatives ou à défaut un billet pour les barrages en se plaçant de la 9e à la 24e place. Le tableau des tours à élimination directe commence à partir des 8e de finale.
Ismaël Benacer, lui, doit attendre pour disputer ce nouveau format de la Ligue des Champions.
L'international algérien de l'AC Milan sera indisponible pendant 4 mois en raison d'une blessure au mollet droit, selon le club vice-champion d'Italie 2024, actuellement 9e de Serie A. Ismaël Benacer s'est blessé au muscle de la jambe droite à l'entraînement alors qu'il était en sélection. Il est parti en 2017 en Italie où il a d'abord joué à Empoli avant de rejoindre en 2019 l'AC Milan avec qui il a remporté le titre de champion d'Italie en 2022.
Tennis, Ons Jabeur met un terme à sa saison.
Cette année a été extrêmement difficile pour moi en raison de ma blessure persistante à l'épaule. Mon équipe médicale et moi-même avons pris la décision difficile de quitter le circuit pour le reste de la saison, a indiqué sur Ex la Tunisienne. Ons Jabeur a ajouté qu'elle reviendrait sur les cours pour l'Open d'Australie en janvier 2025. Cette année, la joueuse dont le meilleur classement WTA a été une deuxième place a fait l'impasse sur les Jeux Olympiques de Paris pour préserver sa condition physique, mais avait dû se retirer du tournoi de Washington début août. Elle avait ensuite perdu au premier tour du tournoi de Toronto face à la japonaise Naomi Osaka avant de renoncer au tournoi de Cincinnati.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
êtes à l'écoute du Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg, toujours avec vous. Place au dossier du jour. Ce mardi matin, des hommes armés ont attaqué une école de gendarmerie au cœur de Bamako, la capitale malienne, déclenchant des tirs et des explosions qui ont duré plusieurs heures. L'armée malienne affirme avoir repris le contrôle de la situation et mène des opérations de ratissage dans la zone. Pour un témoignage, Eric Manirakiza, adjoint sur place, Christelle Pauline Dobion, habitante de Faladje.
Moi, personnellement, quand j'avais entendu les premiers bruits, pour moi, c'était peut-être des pneus qui étaient en train d'éclater parce que généralement, ça arrive. Donc, je me suis dit que c'était rien de grave. Mais jusqu'à ce que ça devient insistant et persistant, et c'est là qu'on a commencé à s'inquiéter un tout petit peu. On a compris que c'était quand même sérieux, mais on n'arrivait pas à savoir c'était quoi exactement. Donc, personnellement, je ne suis pas sortie de la maison, ni aucune personne de la maison aussi, tout simplement parce qu'on entendait ça de très près, parce que moi je ne suis pas loin de la tour d'Afrique, on entendait, c'était comme si c'était vraiment à côté de chez nous, bon c'était à côté de chez nous. Donc on est resté calme, on est resté à la maison, on essayait de s'informer à partir de la maison pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait exactement. Personnellement, ça nous a ramené certains souvenirs, comme en 2012, parce que nous ne sommes pas loin de la tour d'Afrique, comme je le disais. Et en 2012, c'était notre quotidien. Donc, on entendait fréquemment des coups de fusil, on pouvait voir des balles qui passaient. Donc, c'était pas un bon souvenir. Et on est juste resté là à la maison, on priait, on attendait que les choses s'apaisent. Donc, en temps, on s'est informé à partir des réseaux sociaux, on essayait de voir. Et donc, on a juste eu écho qu'il y avait des terroristes qui essayaient de tenter quelque chose jusqu'à ce qu'on puisse obtenir des informations plus claires. Et c'est là qu'on a su que c'était au niveau de la gendarmerie de Faladje. Donc, moi, personnellement, je suis pas sortie, je suis pas allée travailler aujourd'hui. Donc, j'ai décidé de rester à la maison. Ma maman était déjà sortie, mais j'ai dû l'appeler pour qu'elle puisse rentrer aussi parce qu'on ne savait pas exactement c'était quoi. Donc, elle est rentrée. On a juste su après que les routes étaient bloquées au niveau de la tour d'Afrique vers le 26 mars. Et c'est, voilà, après, quand les choses se sont un peu calmées, aux alentours de 8 heures, voilà, même aux alentours de 8 heures, on entendait des coups isolés, mais c'était plus, voilà, de façon fréquente, comme très tôt le matin. Un peu plus tard, j'ai vu la note officielle qui était de calmer un peu la population. Donc, jusque-là, tout va bien.
À quelle heure avez-vous commencé à entendre les détonations et les coups de feu?
C'était très tôt déjà, donc aux environs de 5 heures, comme ça, je dirais, mais j'aurais entendu que c'était un peu plus tôt, vers 4 heures. Mais personnellement, je n'ai pas entendu ça vers 4 heures, certainement que j'étais dans un sommeil profond, mais on s'est réveillé en fait avec ça. Donc, pour moi, c'était des pneus qui éclataient, comme fréquemment ça arrive. Donc, mais c'est après que j'ai compris que ce n'était pas que ça.
Quelle est la situation actuellement dans la zone où vous vous trouvez? Y a-t-il encore des mouvements militaires ou des signes d'insécurité?
Ok, là, actuellement, tout est calme. C'est vraiment calme. Il n'y a pas de... Les gens continuent à vaguer à leurs occupations. Voilà, d'autres sortes pour aller à la boutique. Chacun fait ce qu'il veut, mais c'est calme. Par contre, je pense que les militaires sont là et voilà, pour boucler la zone. Il n'y a pas vraiment de mouvement, tout est apaisé. Donc je pense que même les esprits aussi se sont apaisés, mais on reste vigilant quand même, parce qu'on ne sait jamais.
C'était le témoignage de Christelle Pauline Dobion, habitante de Faladje à Bamako.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
En Côte d'Ivoire, les taxes sur les véhicules ont fortement augmenté. Pour importer des véhicules lourds et de tourisme, il faut s'acquitter désormais d'une taxe de 150 000 francs CFA contre 15 000 francs CFA auparavant. Cette hausse vertigineuse de 900% crée la stupeur au sein des importateurs de véhicules. Plus de détails avec notre correspondant à Abidjan, Ange Nomenyo.
Le 5 septembre dernier, les importateurs de véhicules découvrent avec beaucoup de surprise les nouvelles taxes fixées par le port autonome d'Abidjan. Les gros camions et les véhicules de tourisme sont désormais taxés à 150 000 francs CFA contre 15 000 francs CFA auparavant. Une hausse qui laisse sans voix de jeunes entreprises d'import-export.
Comme tout le monde, on l'a appris sur les réseaux, on a vu la note officielle, on croyait que c'était une blague, mais malheureusement, on a constaté que c'était vrai. Et on a été d'abord choqués, vraiment choqués, parce que personne n'a été consulté, la note est sortie et ça nous a été imposé. Ils ne nous ont même pas donné de préavis pour pouvoir se préparer, même on va dire 6 mois ou 1 an, à cette augmentation, et donc on était vraiment choqués.
Les transitaires ivoiriens sont tout autant désorientés que les autres acteurs. Ils ont déjà eu du mal à accepter la limitation d'âge à 5 ans sur les véhicules importés. Cette nouvelle taxe vient comme un coup de massue qui risque de mettre en péril leurs activités.
Donc quand on a vu, en tout cas nous étions étonnés. Alors comment est-ce qu'on peut passer de 15 000 francs une tonne à 150 000 ? Voilà, donc on a trouvé quand même que ces frais sont démesurés.
Ces nouvelles taxes ont des conséquences directes sur l'importation de gros véhicules en Côte d'Ivoire. Si les transitaires se projettent pour voir dans quelle mesure ils peuvent tenir, les petites entreprises, elles, sont contraintes de mettre une pause à leurs activités. Et cela sans compter le coût de la vie qui devient de plus en plus cher.
Bon, directement, c'est déjà, en tant que petit importateur de gros camions, c'est déjà même la remise en question de mon business model, parce que là où vous avez des marges de 3 millions et vous allez vous retrouver à payer ça en taxes, déjà pour les prochains arrivages, c'est sûr qu'on n'aura pas de bénéfices. On n'aura pas de bénéfices et là, il faudra déjà penser à comment même réorienter l'activité.
Selon les autorités portuaires, l'augmentation de ces taxes s'inscrit dans un plan plus large visant à soutenir la modernisation et l'amélioration des infrastructures du port autonome d'Abidjan, un carrefour commercial stratégique pour la sous-région ouest africaine. Ange Bijoulamagnon pour VOA Afrique, Abidjan.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24. Au Cameroun, une salle de sport est exclusivement dédiée aux femmes pour leur apprendre les techniques de l'autodéfense. C'est un espace sûr où les femmes peuvent acquérir des compétences vitales en vue d'une autonomie contre tous les types de violences. Le reportage à Yaoundé d'Anne Douanke, il est relaté par Jean-Roger Bion.
Dans cette salle de sport de Yaoundé, des femmes s'entraînent pour apprendre à se défendre. Elles sont inscrites à un art martial axé sur les tactiques d'autodéfense dans des situations réelles. Le CRAV, MAGA Women Protect, créé en mai. Ce club de la capitale camerounaise dédié aux arts martiaux compte une trentaine de membres et la plupart des femmes qui le fréquentent ont été victimes de violences. Sarah Pibble est l'une d'entre elles et a elle-même survécu à une attaque.
J'ai été agressée quand je rentrais du travail. C'était une agression particulière parce qu'elle m'a traumatisée. On a tout pris, argent, téléphone, bijoux. Et ce jour, comme il pleuvait, j'ai dû rentrer à la maison sous la pluie. Après ça, on m'avait parlé de la self-défense, comment apprendre à se défendre ou alors anticiper une éventuelle agression.
Certains membres disent qu'avant l'ouverture du club, ils ne savaient pas comment se protéger d'éventuelles agressions, tandis que d'autres disent qu'ils ne se sentent pas à l'aise de faire de l'exercice dans un environnement mixte où les hommes s'entraînent. Le club KMWP a été créé par Alain Flavier Yambe. Il explique pourquoi il a lancé des cours réservés aux femmes.
Donc pour les femmes, par exemple, qui sont souvent fait violenter, c'est souvent parfois traumatisant de revivre certains aspects de leur agression en salle, et surtout si elles sont en cours avec les hommes. Nous avons donc créé cette option femmes où elles peuvent tout se dire entre elles parce qu'elles se sentent en sécurité entre elles. Mais l'objectif n'est pas de rester juste entre femmes, mais c'est de rejoindre également les cours mixtes.
Olga Etundi, instructrice d'autodéfense à la salle de sport, présente des techniques spécifiques pour chaque type d'attaque, ainsi que les critères inhérents au choix des techniques.
Nous appartenons à une association qui pratique la self-défense spécifiquement dédiée aux femmes, qui a mis sur point cette technique. Nous avons par exemple la défense contre l'écranglement, que ce soit l'écranglement à deux mains ou à l'écranglement à une main. Donc on apprend aux adhérentes à se défendre contre ces types d'agressions.
Selon les experts, la création d'un club exclusivement féminin est une bonne initiative qui renforce la confiance des femmes en particulier celles qui ont été traumatisées par la violence. Serge Dejala-Epo, instructeur de l'armée, est l'un de ses experts en autodéfense. Il souligne que les femmes peuvent également s'entraîner aux côtés des hommes afin de développer les bons réflexes pour tout type de situation.
Je pense qu'ils devraient, dans leur programme, de temps en temps, à faire intervenir des hommes. Oui, je pense qu'ils devraient, et ils gagneraient beaucoup plus à le faire. Les femmes, il ne faudrait pas qu'elles s'habituent totalement aux femmes, mais en se mettant en contact avec les hommes, elles pourront palper la réalité.
La violence contre les femmes est la violation des droits de l'homme la plus répandue dans le monde, selon l'ONU. Ces femmes camerounaises espèrent changer cela en apprenant à se défendre contre la violence, une tactique d'art martial à la fois.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2. Les adversaires des États-Unis redoublent d'efforts pour influencer le résultat de l'élection présidentielle américaine et des autres scrutins. Jeff Seldin, correspondant de la VOA pour la sécurité nationale, décrit l'éventail de plus en plus large d'opérations d'influence sophistiquées visant les électeurs américains. Le récit est de Yacouba Ouedraogo.
Dans la course à la présidence des États-Unis, la campagne de séduction des électeurs bat son plein. Le candidat républicain à l'élection présidentielle, Donald Trump.
Nous sauverons notre économie. Nous sauverons notre classe moyenne.
Et la candidate démocrate à l'élection présidentielle, Kamala Harris.
Il est temps de tourner la page,
Mais selon des responsables américains, la Russie s'est ajoutée à la campagne. Merrick Garland, procureur général des États-Unis.
Le cercle rapproché du président Vladimir Poutine, dont Sergei Kirilenko, a demandé aux sociétés de relations publiques russes de promouvoir la désinformation et les récits parrainés par l'État dans le cadre d'un programme visant à influencer l'élection présidentielle américaine de 2024.
Selon l'acte d'accusation américain, une partie du système consistait à imiter des dizaines de sites web d'information afin d'influencer l'opinion des électeurs américains sur des questions essentielles. L'autre partie impliquait le média RT, soutenu par l'État russe, accusé d'avoir versé près de 10 millions de dollars à une société de médias basée aux États-Unis. Matthew Miller, porte-parole du département d'État.
Il s'agit de payer des millions de dollars à des Américains à leur insu pour qu'ils puissent transmettre le message du Kremlin afin d'influencer les élections américaines et de saper la démocratie.
La Russie a nié ces accusations. Maria Zakharova est la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.
Il s'agit d'une russophobie, d'une atteinte à la liberté d'expression, de discrimination et des jeux les plus sales des États-Unis et de l'État profond en vue d'une manipulation pendant le cycle électoral.
Les responsables américains jugent cette dénégation risible. Une évaluation non classifiée des services de renseignement publiée au début du mois qualifie la Russie de menace d'influence étrangère la plus active pour les prochaines élections dans le but de renforcer les chances de l'ancien président Donald Trump. Il y a aussi l'Iran. Merrick Garland, procureur général des États-Unis.
Nous avons observé une activité iranienne de plus en plus agressive au cours de ce cycle électoral. Cela inclut les activités récemment rapportées par l'Iran pour compromettre la campagne de l'ancien président Trump et pour éviter un résultat électoral qu'il considère comme contraire à ses intérêts.
Les services de renseignement américains affirment que la Chine a aussi mené une campagne à petite échelle sur les réseaux sociaux visant à nuire aux candidats considérés comme hostiles à Pékin. On peut toutefois se demander si la dissuasion américaine fonctionne. Margaret Talef de l'Université de Syracuse.
Je ne pense pas que jusqu'à présent cette question soit devenue un sujet de premier plan pour la plupart des électeurs américains, mais il est très important que les électeurs comprennent ce qui se passe et comment ils risquent d'être des pions.
De quoi donner du grain à moudre aux Américains qui s'apprêtent à se rendre aux urnes.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur notre site internet voafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute des programmes de VOA Afrique, bien sûr.